Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, oui, Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Et avec nous aujourd'hui, en direct comme d'habitude, Christian Lequesne, professeur au Centre d'études internationales de Sciences Po, spécialiste de l'Europe, et Dominique Moisy, conseiller de l'Institut Montaigne et spécialiste des relations internationales. Messieurs, vous allez aussi devoir parler un peu de la politique française, même si grâce à vous, nous allons quand même nous souvenir que cette semaine, il s'est également passé des choses ailleurs qu'en France. Alors pour commencer, comme d'habitude, Cantelou.
Allez, on va revenir sur le coup d'envoi du grand débat et ce très long dialogue entre Emmanuel Macron et les maires. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour à toutes et à tous. J'étais bon hier, hein. J'ai fait un super temps. 6h34 minutes, 24 secondes et 48 centièmes. J'ai bossé plus en une journée que le gros Hollande en 5 ans.
Oh, allez.
Ah mais il a raison Jean-Michel Apathy, j'ai fait une Fidel Castro. Je suis en fait un Fidel Castro, mais de droite, cher Jean-Michel. J'aurais dû mettre un survêt comme lui, tiens.
Un survêt, oh là là.
C'est vrai, je pense qu'il faut le rappeler, il a été éblouissant. Alors, pas sur le fond, mais sur la forme. Pas de pause café, pas de pause pipi, c'est très fort. À noter que Macron, il faut le dire, a ouvert la porte sur les 80 km/h.
Pour moi, d'intervenir, mais ouvrir la porte à 80 km/h, c'est une vraie connerie. Hein. Puis surtout, c'est dangereux. Moi, ça m'est arrivé une fois, parce que j'étais un peu barbouillé. Après un apéro avec des poteaux du 36 Quai des Orfèvres.
Ah non.
Oui, si, c'est dangereux, vous savez, d'ouvrir en roulant. J'ai failli rouler boulet dans le bateau. De rouler boulet sur le bas-côté, c'est. Heureusement que j'avais la ceinture qui me retenait. J'ai fait une sorte de... J'étais un peu comme Tarzan accroché à sa liane. Heureusement, c'est Nicolas Barret qui conduit la voiture.
Oh non, arrêtez, oh là.
Il a donné un petit coup de volant pour me remettre en selle et il m'a sauvé la vie. Merci Nicolas, il s'en souvient.
Bah merci Laurent. En tout cas, c'était une performance très longue hein, hier.
Oui, merci pour ces précisions, cher Laurent Cabrol. Je ne connaissais pas cette histoire. Vous avez regardé l'intégralité de ma prestation?
Bah oui, oui, oui.
Ah, oui, oui.
Mais ça veut dire que vous n'avez pas grand-chose à foutre, dis donc. Glandé 7 heures devant BFM, bravo. Non, écoutez, assez parlé de moi, parlons plutôt de la pertinence de mes réponses. Franchement, je suis d'accord avec Jean-Michel Apathy, je me suis trouvé très bon.
Et en effet, mardi, il a parlé près de 7 heures. Sur l'ensemble des chaînes info, il y a eu, en cumulé en tout cas, plus d'un million de téléspectateurs. Hier, il a fait rebelote à Souillac, 6h35, si je ne me trompe pas, on n'a pas encore les chiffres d'audience. Ces performances et ces débats ou ces échanges sont l'objet de commentaires variés. Écoutez celui de David Racheline, maire Rassemblement National de Fréjus, le 14 janvier.
C'est un cadrage, mais dans le cadre d'un débat, c'est toujours un petit peu étonnant, parce que le débat, normalement, il faut qu'il vive, il faut qu'il soit libre. Là, aucune liberté, des thèmes choisis, des thèmes obligés, j'allais dire. C'est surprenant.
Aucune liberté, vous dites, le président de la République écrit « il n'y a pas de questions interdites ».
Il y a surtout des thèmes qu'ils ont choisis et dont, manifestement, ils ne veulent pas sortir. On reste dans l'attente de savoir d'ailleurs par qui va être organisé ce débat, comment va-t-il être organisé. Les maires, je crois, attendent que l'État organise ces débats. Mais je ne me vois pas en animateur, en défenseur de la politique du gouvernement, ni moi, ni à mon avis la plupart de mes collègues.
C'est un cadrage, mais dans le cadre d'un débat, c'est un petit peu étonnant. Un cadrage étonnant dans un cadre, c'est pas si surprenant, mais enfin bon, chacun en pensera ce qu'il veut. Comment est-ce que vous appréciez, au sens neutre du terme, Christian Lequesne, ces décisions du président de la République et les premiers cas de mise en œuvre d'aller faire un débat par région avec des maires en quantité?
Bah, je crois qu'il n'avait pas le choix. Il fallait bien qu'il trouve un moyen... de s'adresser à ceux qu'il a négligés quand même, il faut dire les choses franchement, et qui n'avaient pas forcément de lui une image très très positive. Donc il a fallu, là, après ce mouvement des Gilets jaunes qui descendent sur le terrain, il est descendu, et là il est assez bon, parce que quand il s'agit de la confrontation directe comme ça, il a du punch, il est plutôt là, je dirais, candidat même que président de la République, hein. et c'est là où il est bon. Et ce que disait David Rachline sur le fait que le débat est encadré, non, quand on écoute, on voit bien que les maires disent dans le fond ce qu'ils ont sur le cœur, et ça, je trouve ça très, très positif.
Hier, absolument. Voilà, ouais. On fait la comparaison, Dominique Moïsi, peut-être un peu sur le mode humoristique, avec Fidel Castro. Il y a une différence assez fondamentale, c'est que les discours de Fidel Castro étaient en effet très longs, mais c'était des monologues. Vous qui avez quand même une longue expérience d'études de pays étrangers, et particulièrement anglo-saxons, est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble à cet exercice, puisqu'encore une fois, je répète, pour Castro, je pense que la comparaison n'est pas pertinente.
Non, à vrai dire. Ces monologues qui durent des heures sont en général l'apanage des régimes non démocratiques. Là, il y a un vrai dialogue avec les représentants élus du peuple, un dialogue qui est utilisé pour contrer les représentants autoproclamés du peuple. Et Christian Le Ken l'a dit fort justement, le candidat est en train de rattraper les erreurs commises par le président.
Mais pourquoi est-ce que vous dites l'un et l'autre le candidat ? On a l'impression qu'on est tellement embêté de ne pas avoir de précédent, ni chez nous ni ailleurs, qu'on veut se raccrocher à quelque chose et on dit « Ah, le candidat !» Mais pourquoi le candidat ? C'est un président de la République, oui, qui décide de fonctionner, de s'adresser aux maires et à travers eux, aux journalistes et aux Français, sur un mode nouveau. C'est pas parce que ça ressemble vaguement à ce qu'il faisait comme candidat que ça veut dire que le président devient le candidat. Est-ce que c'est pas, je le répète, c'est pas votre recherche désespérée d'un précédent alors que justement ce qui est intéressant c'est qu'il n'y en a pas. Et puis mon interpellation pour vous deux. Hein.
Non, je ne le crois pas. Je pense qu'en réalité, Emmanuel Macron connaît ses forces et ses faiblesses. Et visiblement, il est bien meilleur dans le dialogue direct avec le peuple et les représentants du peuple, qu'il ne l'est dans la gestion quotidienne des affaires de l'État. Donc, il est peut-être un mauvais manager, mais il est un excellent debater.
Alors, je pose ma question autrement, Christian Lequel. À la fin de son intervention hier à Souillac, le président de la République a dit « Et j'espère que nous sommes en train de, et nous allons inventer une nouvelle République délibérative. Nous manquons de délibération dans notre pays et nous sommes en train d'inventer quelque chose. » Est-ce que ça, c'est plausible ? Ou est-ce que c'est un exercice qu'il fait là ? Parce que, comme vous l'avez très justement dit, il fallait bien inventer quelque chose pour tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes, mais que ça ne sera qu'une parenthèse.
Oui, alors d'abord, je reviens sur candidat au président. Il y a quand même l'échéance des élections européennes qui sont absolument fondamentales pour lui.
J'adore puisque... quand je pose une question et qu'on n'a pas envie de répondre. Je vais vous dire ce que j'avais envie de vous dire, je ne vais pas répondre à votre question.
Donc, je pense que c'est quand même très important pour lui qu'il assure, si vous voulez, un certain pourcentage, en sachant qu'il s'est quand même très engagé en faveur de l'Europe et qui ne peut pas se permettre de trop perdre. Et comme vous le savez, c'est une élection proportionnelle. Donc cette élection proportionnelle, bien sûr, elle profite aussi aux extrêmes et aux conservateurs.
Donc si je vous comprends bien, c'est un début d'opération de campagne européenne.
Je pense qu'il y a de cela.
D'accord.
Oui, je pense qu'il essaie aussi d'expérimenter dans un contexte de crise. Il a pas le choix des nouvelles formes de dialogue. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait si tout avait marché comme il l'avait pensé, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes. Mais vu de l'extérieur, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est frappant quand même, c'est l'absence de débat au Parlement. Je veux dire, et c'est ce que nous disent les commentateurs européens. Ils nous disent, mais normalement, dans une démocratie, c'est au Parlement que les choses se passent. On a l'impression que là, en France, il n'y a aucune crédibilité du Parlement.
Oui, mais en même temps, vous ne pouvez pas faire dans le même moment et sur le même lieu un moment de démocratie représentative et un moment de démocratie participative. Ça paraît impossible. On y revient dans quelques instants.
10h-11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Médiapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vos deux invités, Christian Lequen, professeur au Centre d'études internationales de Sciences Po, spécialiste de l'Europe, et Dominique Moisy, conseiller de l'Institut Montaigne et spécialiste des relations internationales.
Je vous ai dit qu'on allait s'interroger sur comment diable faire vivre ensemble démocratie représentative et démocratie participative. Je pense d'abord que l'exercice du président de la République avec les maires, quelque part, pour part en tout cas, fait cette imbrication. Les maires sont des élus, mais des élus très proches de la base, de leurs électeurs. Donc c'est un exercice avec des représentants, mais qui se passe débat ouvert, en direct, transmis sur la télévision, donc qui ressemble aussi, et où on interpelle librement, donc qui est un aspect participatif. Et dans cet exercice, à la fois il faut écouter et prendre en compte ce qu'on vous objecte, participatif, mais il faut aussi se rappeler qu'on a été élu sur un programme avec des convictions représentatives. Il faut le faire sur un mode un minimum sérieux et tenu, président de la République, représentatif, mais quand même avec un peu d'allant et de sens du dire, avec participatif. Alors, je vous ai choisi un extrait de l'intervention de mardi où je pense qu'on a exactement ces deux aspects dans la forme et sur le fond. Écoutez.
Dans des moments comme ça où le pays parfois prend des airs un peu de folie, on veut toujours trouver un coupable. Mais il ne faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah, « celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Bah, » non.
Donc dans la forme, on voit bien, hein, y a une certaine gouaille. Hein, c'est, enfin, de la gouaille littéraire, si je puis dire, c'est de la pipe, qui est une expression quand même un peu désuète. Mais « bah celui-là, on a compris. » Bah non, etc. Et puis sur le fond, il y a je tiens jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à évaluation, on dira-t-il à d'autres moments, je tiens sur l'ISF. Est-ce que c'est bien ce mixte-là qui explique que pour beaucoup, les interventions d'Emmanuel Macron sont réussies, Dominique Moisy?
Quand il était jeune, il faisait du théâtre.
Enfin, il n'est pas si vieux, hein,
arrêtez. Non, mais quand il était tout jeune, il faisait du théâtre. On retrouve ses qualités d'acteur dans un moment comme celui-là. Je viens de voir, c'est pas de la publicité, le film Edmond sur Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac. Il y a de la gouaille, il y a du panache, il y a toutes ces qualités. Et on est forcé de dire bravo l'artiste. Mais est-ce que ça suffit? C'est toute la question. Mais je pense que ces images de tous ces maires, solennels et simples, avec leur bandeau tricolore, c'est une image d'histoire. Ça restera comme un moment de la vie politique française. Ça me rappelle des estampes que l'on pouvait voir à la fin du 19e siècle. Ça s'inscrit dans la mémoire, déjà.
Christian Lequen, il ne va pas y avoir un petit problème? Il faut le répéter encore au moins 11 fois, puisqu'il a dit qu'il le ferait dans chaque région. Est-ce qu'on peut s'en lasser, répéter 11 fois, ou sinon, est-ce qu'il va falloir inventer une autre manière de le faire dans les autres régions? Mais si oui, comment?
C'est un peu difficile, surtout dans un pays qui a autant le sens de l'égalité. Si vous commencez à le faire dans une région, vous êtes obligé de le faire dans toutes. Ouais. Ce qui voudra dire pour lui énormément d'énergie à mobiliser. Mais je trouve que c'est ça qui est assez extraordinaire quand même, c'est de voir combien il est capable d'affronter une certaine hostilité aussi, avec, comme le disait Dominique, du panache et un sens de la répartie. Donc il est plutôt bon dans ce genre d'exercice. Ouais. Mais est-ce que ça va produire des effets auprès des Gilets jaunes en particulier, de ceux qui ont quand même fait de lui la figure aujourd'hui de l'ennemi, hein? Il y a une très forte personnalisation.
Ouais. Mais si vous permettez, je ne pense pas que le problème ce soit les effets auprès des Gilets jaunes, qui sont presque impossibles. Je pense que le problème sont les effets auprès de ceux qui soutiennent ou sont en sympathie avec les Gilets jaunes. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même dans ce mouvement qui est très très difficile à bien saisir. Comment se fait-il que, allez, on compte large, comment se fait-il que 400 000 personnes, même si aujourd'hui ils sont plus 40 000 que 400 000, on le verra ce soir, comment se fait-il que 400 000 personnes aient pu mettre le pouvoir politique dans une telle faiblesse en mai 68? Ce ne sont pas 40 000 étudiants qui ont mis le pouvoir en faiblesse. Ça a été la contamination dans l'ensemble de la société, dans les usines, à l'ORTF, dans les institutions culturelles, où on s'est retrouvé avec 11 millions de grévistes, où on s'est retrouvé avec partout des assemblées générales, des discussions généralisées, etc. C'est ça qui a arrêté le pouvoir. Et là, quel est l'équivalent de ces millions de grévistes? Ce sont les millions de Français par son âge. Sinon, rien de tout ça n'aurait continué. Donc je pense que c'est à eux qu'il s'adresse aussi, et que c'est eux qu'il doit convaincre. Vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait. Je crois que dans son cas, il s'agit de consolider son camp, qui commençait à douter très sérieusement de lui, et introduire le doute dans le camp des sympathisants des Gilets jaunes, au moment où on se lasse des manifestations, où on a peur de la violence, et on se dit quelque part, oulala, peut-être le statu quo confortable n'était pas si mal après tout.
Et alors, comment est-ce que tout ça est perçu à l'étranger? Eh bien, ne me répondez pas, c'est juste une aguiche. Dans quelques instants, vous nous le direz.
10h-11h, Mediapolis, avec Olivier Duhamel sur Europe 1.
Dominique Moisy, conseiller de l'Institut Montaigne, spécialiste des relations internationales, et Christian Lequen, professeur au Centre d'études internationales de Sciences Po, spécialiste de l'Europe, sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Alors la question qu'on se pose, puisque vous êtes l'un et l'autre des spécialistes de l'international, puisque vous regardez les autres pays, et vous regardez aussi parfois comment les autres pays regardent la France, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a été l'occasion de réactiver les grands clichés, pas forcément faux d'ailleurs, hein, sur la France, pays ingouvernable, la France, pays objet de d'éruptions volcaniques et de révolutions toutes les 10, 15, 20, 40 ou 50 ans. Et est-ce qu'il y a eu, avant même ça, vous allez me répondre aussi là-dessus, est-ce qu'il y a eu un intérêt particulier pour ce mouvement ou pas spécialement ? Christian Lequen.
Oui, absolument. Il y a eu un vrai intérêt, et lorsqu'on voyage un peu, notamment en Europe, c'est la première question qu'on vous pose. Essayez de décrypter, aidez-nous à décrypter un peu ce mouvement. Je crois qu'il y a trois sources d'interrogation pour nos voisins européens en particulier. Le premier, c'est pourquoi une revendication sociale dans un État qui est aussi social? Je veux dire, c'est un État quand même, la France, qui a une politique sociale qui est parmi les plus actives en Europe.
Je ne peux pas dire socialiste. On le voit dans la fiche de Bercy qui a été mise en contribution aux Gilets jaunes, où vont les 1 000 euros de dépenses publiques, beaucoup plus que la moitié de ces dépenses
57%
vont à la maladie, à la retraite, au chômage, donc à de la redistribution.
C'est plus que n'importe quel État européen, y compris le Danemark. Ouais. Ça, c'est le premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, c'est la prégnance de la culture de la lutte des classes, quand même. Ça, c'est une question qui revient très souvent, cette espèce d'idée que la société française serait polarisée entre d'un côté les super riches et de l'autre les super pauvres, oubliant totalement tout ce qui est au milieu, les effets de la méritocratie. Ça interroge beaucoup les Européens. Et troisièmement, c'est c'est pas la radicalité de la violence, mais c'est une certaine légitimation de la violence, c'est-à-dire ce discours qui consiste à dire la violence c'est pas bien, mais il faut comprendre. Ça, c'est une chose qui choque beaucoup les Européens. J'étais en Slovaquie la semaine dernière. À Bratislava, il y a eu au cours de l'année des très très grandes manifestations parce qu'ils ont eu des affaires de corruption terribles et le meurtre d'un journaliste. Et justement, les Slovaques étaient très heureux de me dire, mais chez nous, ça a été parfaitement pacifique par rapport à chez vous. Pourquoi chez vous faut-il, pour se faire entendre, casser? En gros, ça c'est une chose qu'on a du mal à comprendre.
Dominique Moisy, vous partagez, mais vous pouvez compléter cette analyse.
Oui, je partage et je complète. Ce qui m'a frappé D'abord, c'est le très grand intérêt pour les événements gilets jaunes en France, de la part en particulier du monde anglo-saxon que je connais le mieux. Et il y avait à la fois un élément de comparaison avec ce qui se passait chez eux. Les Britanniques voyaient les gilets jaunes comme un Brexit à la française.
Un Brexit de la base.
Avec l'idée, nous, en Grande-Bretagne, quand on veut protester, on le fait par le vote. Vous, ouais, enfin, en France...
C'est une blague, ils ont eu deux référendums en...
Alors, mais, oui, non mais l'idée quand même, c'est... Vous, vous construisez des barricades et vous jetez des pavés. Et le résultat est le même, car vous vous tirez une balle dans le pied, comme nous l'avons fait par le vote en Grande-Bretagne. Donc il y a cette comparaison et en même temps l'exception française. Le côté, est-ce que vous êtes à nouveau en mai 68, alors que certains de vos manifestants se rêvent en 1789 comment est-ce possible? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait en France cette forme de romantisme révolutionnaire qui n'existe nulle part ailleurs? Alors il y avait ceux qui se réjouissaient vivement, les Italiens, Salvini, allant jusqu'à dire aux Gilets jaunes, tenez le coup, nous sommes tenez bon, nous sommes
si vous avez
derrière
besoin,
vous.
Nous vous aiderons, oui, absolument.
Voilà, absolument.
Oui, mais ça, c'est pas anti-macronisme, ça.
Ah, tout à fait. Hein, c'est un discours populiste.
Oui, mais pas juste parce que tout ce qui peut embêter Macron est bienvenu, c'est quand même un peu particulier.
Mais l'idée, quand même, c'est ce président qui...
C'est quand même, attendez, je vous arrête une seconde. À ma connaissance, mais vous allez me corriger, c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'un responsable politique de très haut niveau au pouvoir, un membre du gouvernement de très haut niveau d'un pays européen, soutient ouvertement une révolte contre un dirigeant d'un autre pays de l'Union européenne.
Oui,
mais parce qu'il n'y a pas de précédent de ça.
Mais parce que les populistes sont en train de changer les règles du jeu en Europe.
Tout à fait.
Voilà.
Oui, mais enfin, c'est quand même étonnant, quoi. On fait partie de la même famille, et il y a le voisin qui va très mal, et on dit à ceux qui font qu'il va mal, allez-y, continuez ce formidable.
Ah bah, c'est un discours parfaitement anti-européen. Et au fond, on soutient les valeurs de ceux qui rejettent l'Europe. Oui. Et c'est un des pays membres fondateurs, un des pays du Club des Six, qui se livre à cette... cette variation terrible.
J'aime bien cette variation, l'euphémisme. Alors, vous avez prononcé le mot Brexit, Dominique Moïsi. Je ne l'ai pas entendu autant que j'aurais voulu cette semaine, ce mot Brexit, parce que, évidemment qu'on l'a entendu. Mais enfin, il y a quand même eu un événement assez colossal qui s'est passé à la Chambre des communes, avec le rejet de l'accord si laborieusement négocié entre Theresa May et les dirigeants européens. On y revient dans quelques instants.
Comme tous les samedis, on vous retrouve, Olivier Duhamel, avec Mediapolis, jusqu'à 11h. Et aujourd'hui, vous recevez le professeur au Centre d'études internationales de Sciences Po, spécialiste de l'Europe, Christian Lequen, et le conseiller de l'Institut Montaigne, spécialiste des relations internationales, Dominique Moisy.
Alors, si vous me permettez, juste avant qu'on en vienne au Brexit proprement dit, juste une seconde de zoom arrière, sur trois grands pays, la France, et vous avez un mouvement de quelques centaines de milliers de gilets jaunes qui met un des pouvoirs politiques les plus puissants des démocraties en grande difficulté, faiblesse, obligé de reculer et de céder du terrain. Vous avez deuxième plus grande démocratie du monde après l'Inde, les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance du monde, qui est depuis maintenant plus de deux mois partiellement bloquée, paralysée, et en train d'avoir le risque d'une fin de la croissance économique par un affrontement non résolu entre son président et son parlement, en tout cas une des chambres de son parlement. Et vous avez la mère des démocraties au Royaume-Uni, dans laquelle la première ministre conservatrice est allée négocier durement pour obtenir un accord extrêmement compliqué, mais jusque dans les détails de centaines de pages, accepté par les 27 autres pays de l'Union européenne, et dans sa majorité, eh bien, elle a une majorité. Eh bien, elle s'est pris 432 voix contre et seulement 202 pour. Autrement dit, la décomposition de sa majorité sans même le moindre accord sur une solution adverse. Il y a quand même bien quelque chose qui ne tourne plus rond dans nos démocraties avant d'en venir au Brexit stricto sensu, Christian Lequen.
Oui, absolument. Je pense que c'est une crise énorme, d'abord du leadership en politique, c'est un premier point. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une crise de la représentation qui est liée au fait qu'il y a un éclatement aujourd'hui des positions sur à peu près tous les sujets de société, qui se traduit d'ailleurs aussi par un éclatement des partis politiques. Quand vous aviez des systèmes politiques avec deux partis incarnant la droite d'un côté et la gauche de l'autre, bon, c'était relativement facile de trouver des compromis sur les grandes décisions. Là, tout est devenu beaucoup plus complexe. Dans le fond, les démocraties nationales ressemblent beaucoup plus au système européen, qui lui a toujours été un système d'émiettement où il fallait faire preuve de beaucoup plus de négociations pour arriver à des compromis complexes.
Mais justement, arriver à des compromis complexes, il y a quelque chose de paradoxal que la Premier ministre britannique y soit arrivée avec la Commission européenne et derrière elle quand même parce qu'ils étaient associés, les 27 pays de l'Union européenne, et qu'elle n'a pas été capable de faire passer un compromis dans son propre Parlement, Dominique Moïse.
Oui, mais Olivier Duhamel, l'accord que Theresa May pouvait obtenir des 27 était condamné d'avance par son propre Parlement. Le seul accord que les députés ultra-conservateurs, eurosceptiques, auraient accepté était un accord complètement irrecevable par les 27. C'est ça la contradiction.
À cause de quoi ? Où est le point central de cette incompatibilité ?
Le point central, fondamentalement, c'est que les députés eurosceptiques britanniques au sein du Parti conservateur ne veulent payer aucun prix à leur départ et veulent partir de la manière la plus claire possible. Ne pas souffrir sur le plan commercial de ce départ et être parfaitement libre en matière juridique, etc. Et il y a une dimension spécifique qui unit le cas britannique et le cas américain, c'est le rôle des personnalités dans l'histoire.
Attendez, le cas américain et le cas britannique.
Alors,
avec le rôle des personnalités. Je reste dans le cas britannique.
C'est quand même le fait que vous avez, selon la majorité des commentateurs anglais, les deux pires premiers ministres de l'histoire de Grande-Bretagne au cours des 70 dernières années qui se succèdent l'un à l'autre. David Cameron a créé, entre guillemets, un bordel impossible et Theresa May n'a pas réussi à en sortir la Grande-Bretagne. Et tous les deux souffrent du même syndrome, ils font passer l'intérêt de leur parti avant celui de leur pays.
Et alors nous avons un autre facteur qui rend la possibilité de gouverner de plus en plus restreinte, c'est l'incroyable progression des fake news au sens le plus large. C'était le cas pendant la campagne du Brexit. On y revient dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui reçoit ce samedi Dominique Moisy, conseiller de l'Institut Montaigne, spécialiste des relations internationales, et Christian Lequen, professeur au Centre d'études internationales de Sciences Po, spécialiste de l'Europe.
Et alors, fake news de chez fake news, Paul Lassen qui prépare cette émission et qui nous cherche comme ça, ici et là, des petites pépites, même de Las Vegas, il s'est mis au boulot, et il a trouvé que le 22 janvier, la France et l'Allemagne, enfin ça il l'a trouvé, on était beaucoup à le savoir, que le 22 janvier, la France et l'Allemagne allaient signer à Aix-la-Chapelle un traité de coopération entre les deux pays. Donc un nouveau traité de l'Élysée 55 ans après, en quelque sorte. Mais ce qu'il nous a trouvé, c'est que comme à l'image du pacte de Marrakech il y a un mois, le nombre de fausses informations qui circulent contre le contenu de cet accord est impressionnant. Et dans des proportions qui dépassent l'imaginable. Macron aurait décidé de céder l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Les écoliers de ces régions seraient obligés d'apprendre l'allemand. La ministre des Affaires étrangères, Nathalie Loiseau, a réagi sur son compte Twitter en précisant ce dont il s'agissait dans ce pacte. Des programmes de défense communs, la création d'un fonds franco-allemand pour la société civile, des projets transfrontaliers. etc. Elle dénonce donc, et on peut là sur ce point la comprendre, une démarche pathétique et lassante. Difficile de gouverner avec des salades pareilles, non, Dominique Moïse?
Oui, mais ça fait hélas partie des contraintes de la démocratie moderne.
Mais on n'a pas appris à y répondre. C'est-à-dire que des études très savantes montrent que quand on défait des fake news, ceux qui avaient cru aux fake news, ils y croient encore plus.
Oui,
ceci étant, on commence maintenant aussi à savoir utiliser du côté des gouvernements, des diplomaties, les réseaux sociaux pour envoyer des contre-fake news. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, les ministères des Affaires étrangères dans la plupart des pays du monde, je veux dire, c'est plus la conférence de presse avec les journalistes qui est le moment important pour faire passer des infos. Il faut travailler les réseaux sociaux, c'est ce que font les directions de la com. Est-ce que je peux dire un mot quand même sur... C'est intéressant que ces fake news concernent l'Allemagne. Je trouve que à partir du moment où il s'agit de l'Allemagne, on voit quand même à nouveau surgir en France tout un tas de clichés qu'on croyait révolus. Et en règle générale, cette idée de l'hégémonie allemande en Europe, l'Allemagne qui nous domine, etc., elle fait quand même pas mal recette chez les extrêmes de ce pays.
Et je vous rassure ou je vous inquiète un peu plus, il en va pour part de même aussi au Royaume-Uni, hein, où ça joue un rôle dans les défenseurs d'un Brexit hard. Et alors pendant ce temps-là, en Suède, Alice Baudry, qui d'une part est directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne et d'autre part à moitié suédoise, a attiré mon attention sur le fait que, après ces élections dont on avait parlé, parce que là il y a eu une grosse progression de l'extrême droite, des démocrates de Suède, puisque c'est le nom des populistes d'extrême droite dans ce pays, obtenant 17,5% des voix, eh bien plus personne n'y a prêté attention. Enfin, un gouvernement a été formé. Plus de 4 mois après les dites élections. Mais ce gouvernement, il va être dirigé par le Premier ministre sortant, le social-démocrate Stéphane Löfven, et c'est un gouvernement en vérité minoritaire. Il n'aura juste pas de majorité contre lui. C'est un gouvernement dont social-démocrate est vert. Donc selon le quotidien suédois Svenska Dagbladet, le soutien est extrêmement fragile et les menaces pour sa durée ne cessent de peser. Donc, à Mediapolis, nous disons « Lycatil », ce qui veut dire « bonne chance » en suédois, à ceux qui, même en Suède maintenant, ont des grandes difficultés pour gouverner. Et pendant ce temps-là, M. Trump continue et continue et continue. On le retrouve dans quelques instants.
De 10h à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1 avec Olivier Duhamel. Et ce matin, on retrouve à vos côtés Olivier, le professeur au Centre d'études internationales de Sciences Po, spécialiste de l'Europe, Christian Lequen, et le conseiller de l'Institut Montaigne, spécialiste des relations internationales, Dominique Moïssi.
Et comme il ne se passe pas grand-chose pour l'instant, on a le droit de regarder ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe notamment aux États-Unis où, alors là c'est presque incompréhensible pour nous les Français, il y a ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire, expliquez-nous en deux mots Dominique Moïse, le shutdown, ça veut dire que le gouvernement fédéral ne paye plus ses fonctionnaires en gros?
Tout à fait, parce qu'il n'y a pas d'accord et on n'a pas le droit de dépenser un argent qui n'a pas été voté. Donc, vous ne gagnez plus votre vie. À la Maison-Blanche, les McBurger arrivent avec les French Fries. C'est ce que dit triomphalement Donald Trump. Je résiste à la Chambre des représentants et tout le monde, désormais, mange comme moi.
Écoutez-le, justement, Donald Trump.
Bon, j'ai eu un choix à faire. N'avons-nous aucune nourriture pour vous ? Parce qu'on est en plein shutdown. Ou bien est-ce qu'on vous donne des petites salades que la première dame aurait préparées avec l'épouse du vice-président ? Et j'ai dit non, vous les gars, vous n'êtes pas très salades.
Bon, d'abord lui, il n'est pas très féministe, évidemment, parce que ça fait penser à Liliane Fellé-Valise, hein, c'est les premières dames qui auraient préparé les salades, en passant. Mais surtout, il blague sur un sujet qui devient de plus en plus sérieux et qui commence à atteindre sa popularité. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser quand même que dans les heures qui viennent, si ce n'est dans les heures, dans les jours qui viennent, il va être obligé de faire un peu marche arrière. Ce blocage, je le rappelle, qui est dû au fait que les démocrates ne veulent pas voter une ligne de financement pour la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et le président Trump ne veut pas d'un accord tant qu'on n'a pas voté ce financement.
Oui, c'est le montant du coût du mur qui est contesté par les démocrates à la Chambre.
Ah bah attendez, c'est complètement délirant si c'est que ça.
Complètement.
C'est sur un montant d'un truc que de toute façon on va financer, qu'on bloque une
mais
partie des administrations du pays.
Un certain nombre d'analystes arrivent à la conclusion aujourd'hui que le shutdown a déjà coûté 5 milliards de dollars, c'est-à-dire en réalité le coût du mur.
Et comment les Américains... D'abord en France c'est inconcevable, mais comment les Américains peuvent accepter ça, Christian Lequel?
Ben, je pense d'abord que ça fait partie des choses possibles aux États-Unis, donc
c'est
intégré
comme
quelque chose de normal.
Oui.
Et le peu de conversations que j'ai eues avec mes amis américains, j'étais très frappé de voir qu'ils n'étaient pas si choqués que cela, en me disant « oui, mais il faut s'adresser à son banquier, et puis de toute façon, ils seront payés, et le jour où ils seront payés, ben, ils rembourseront ce qu'ils doivent à la banque. » Voilà, donc quelque chose qui, effectivement, dans une conception française ou européenne, n'est absolument pas concevable quand on parle d'employés de l'État.
D'autant qu'ils seront payés... C'est vrai, mais c'est pas vrai sur toutes les conséquences collatérales, sur certains sous-traitants,
etc.,
sur les effets sur le commerce.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à quel point le rapport entre le citoyen et l'État est radicalement différent entre la France et les États-Unis. Et aux États-Unis, il y a cette forme d'individualisme forcené. Je ne veux pas dépendre de manière ultime, je vais me débrouiller seul. Donc le pistolet d'un côté... et le shutdown de l'autre.
Si je puis me permettre, c'est
les... notre invité Alexis de Tocqueville qui vient de s'exprimer.
C'est les anti-gilets jaunes, en quelque sorte.
Oui, si l'on veut.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation qui n'existerait pas chez nous. C'est ça que vous laissez entendre.
Non, mais il y a une... Comme le disait très bien Dominique, il n'y a pas d'attente particulière du citoyen, de l'individu, à l'égard de l'État. Oui. Donc, si l'État est en cessation de paiement, l'individu se débrouille, en quelque sorte. C'est ça qui est radicalement opposé à la culture française, où l'État doit être là pour subvenir à la vie de l'individu.
Oui, mais il y a un moment où c'est plus l'individu qui est en cause. Quand le président JP Morgan déclare, comme il a déclaré cette semaine, que si ça continue sur un trimestre, la croissance américaine sera annulée, sera égale à zéro, on dépasse la question de l'individu, là. C'est
oui,
le pays entier qui est mis en danger.
Ça, c'est une autre question. C'est effectivement tout le risque de cette politique extrêmement butée de Trump, qui d'ailleurs risque de se retourner contre ce qui a été d'une certaine manière sa force, puisque on disait oui, mais avec Trump l'économie va assez bien, etc. Voilà, donc j'ai du mal à voir le calcul politique qui existe dans la tête de Trump, si toutefois il fait des calculs politiques de long terme.
Je crois qu'il y en a un quand même, avec l'idée de dire à sa base, qui reste globalement stable, vous voyez, je ne fais aucun compromis. Donc on a une partie de bras de fer entre le président et Mme Pelosi, qui préside aux destinées de la Chambre des représentants, avec cette idée, qui va perdre le plus
donc
en
je
termes
négocie
de popularité
moi,
électorale.
Donald Trump, je vous annonce que je négocie et que j'ai une nouvelle phase de négociation qui va s'ouvrir avec Kim Jong-un, dictateur de Corée du Nord,
mais pas
pour
avec
trouver
Mme Pelosi.
Compromis, mais pas avec Mme Pelosi, chef des démocrates et donc du Congrès.
Tout à
et
fait.
On l'accepte, ça.
Ben, de moins en moins quand même si sa base reste solide. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles de 2020. On est déjà dans la première phase de la campagne électorale.
Donc, on y reviendra. Merci infiniment à vous deux, Christian Lequen, Dominique Moisy. Pour terminer, nous avons choisi une chanson, enfin nous, Jean-Luc Arblade, évidemment, qui est notre grand spécialiste de la chanson, nous a choisi une chanson de Johnny Hallyday que je voudrais que nous dédions à nos amis anglais, gallois, irlandais et peut-être plus encore écossais. Si tu pars.
tu pars. Je veux que la terre entière se couvre de brouillard et que le silence s'installe dans les villages, que plus rien ne bouge en vie et sur les plages, qu'on n'entende que le vent qui hurle, qui crie et qui comprend. Si tu pars, je veux que tous les trains du monde restent dans leur gare. Je veux qu'on bloque les routes, qu'on ferme les frontières et qu'on instaure le couvre-feu, le droit de guerre, que le rire soit interdit, que le plaisir soit aboli.
Extraordinaire prémonition, pas bien accepté quand même, de cette chanson qui a été écrite avant l'entrée du Royaume-Uni dans ce qu'on appelait à l'époque le marché commun et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, bloquer les routes, fermer les frontières, fait formidablement écho au Brexit. Merci à tous. Vous pouvez écouter, réécouter, faire écouter cette émission en podcast sur Europe 1.fr et revenez samedi prochain. À très vite.